Troisième partie, le troisième âge. 1. Le désastre des champs de Flandre. Après la chute de Sauron, Isildur, le fils et l'héritier d'Elendil, revint au Gondor. Et là, il ceignit l'Elendilmir en tant que roi de l'Arnor et proclama sa souveraineté sur tous les Dunedain et au nord et au sud, car il était homme de grand orgueil et vigoureux. Il demeura un an au Gondor pour y rétablir l'ordre et en délimiter les frontières. Mais le gros de l'armée de l'Arnor revint en Eriador en empruntant la route numénoréenne qui, par les gués de l'Isen, gagnait Fornost. Lorsqu'il se sentit enfin libre de retourner en son propre royaume, il fut pris d'une hâte soudaine et désira se rendre sur le champ à Imladris, où il avait laissé sa femme et son plus jeune fils. Et il avait en outre grand besoin de consulter Elrond. C'est pourquoi il résolut de partir d'Osgiliath et de pousser vers le nord en remontant le val de l'Anduin jusqu'au Kirithforn en Andrath, le haut col septentrional d'où l'on redescendait directement sur Imladris. Il connaissait bien le pays pour l'avoir parcouru souvent avant la guerre de l'Alliance, et c'est par ce chemin même qu'il était parti en guerre avec les hommes de l'Arnor de l'Est en la compagnie d'Elrond. C'était un long périple, mais plus long encore, et de beaucoup, était l'autre route, laquelle prenait à l'ouest, puis au nord, jusqu'au carrefour des routes en Arnor, et ensuite à l'est, jusqu'à Imladris. Une route tout aussi rapide pour des cavaliers, mais Isildur n'avait pas de chevaux aptes à faire le voyage, et plus sûr peut-être autrefois, mais à présent, Sauron était vaincu, et les gens des vallées avaient été à ses côtés dans la victoire. Il ne craignait rien, sinon le mauvais temps et la fatigue, car pour qui doit voyager loin en terre du milieu, il faut savoir se montrer endurant. Or donc, comme il est dit dans les légendes plus tardives, la deuxième année du troisième âge tirait à sa fin lorsque Isildur se mit en route, quittant Osgiliath, au début d'Ivaneth, et il comptait atteindre Imladris en 40 jours vers la Minarbeleth avant que l'hiver n'effleurât le nord. Et par un clair matin, Meneldil lui fit ses adieux à la porte est du pont, disant « Va donc et fais diligence, et puisse le soleil de ton départ ne point cesser d'éclairer ta route. » Avec Isildur partirent ses trois fils, Elendur, Aratan et Kirion, et sa garde, forte de 200 cavaliers et soldats, tous hommes de l'Arnor, sérieux et aguerris. On ne sait rien de leur voyage jusqu'à ce qu'ils aient franchi la plaine de Dagorlad et se soient enfoncés plus au nord dans les vastes landes désertes au sud de Verbois-le-Grand. Le 20e jour, comme ils arrivaient tout juste en vue de la forêt qui couronnait les hautes terres dans les lueurs rouges et or d'Ivaneth, le ciel se couvrit à l'horizon. Et de la mer du Rhun, un vent sombre accourut, chargé de pluie. Il plut 4 jours durant, de sorte que lorsqu'ils atteignirent le débouché des vallées entre la Lorienne et l'Amonlank, Isildur se détourna de l'Anduin, grossi d'eau tumultueuse, et gravit les pentes abruptes de la rive occidentale afin de retrouver les anciens sentiers des elfes sylvains qui suivaient la lisière de la forêt. Et c'est ainsi qu'en cette fin d'après-midi du 30e jour de leur expédition, ils longèrent les confins nord des champs de Flambe, empruntant un sentier qui conduisait à ce qui était alors le royaume de Thranduil. La belle journée était à son déclin, et au-delà des cimes lointaines, les nuages s'amoncelaient, empourprés par le soleil brumeux qui s'enfonçait derrière les reliefs. Le creux des ravines s'emplissait d'ombre, et chantaient les Dunedain, car leur journée de marche tirait à sa fin, et ils avaient déjà laissé derrière eux les 2/3 de la longue route jusqu'à Imladris. À main droite, la forêt se dressait au-dessus d'eux sur d'abruptes versants plongeant sur le sentier et qui s'adoucissaient en contrebas pour rejoindre le creux du vallon. Et soudain, comme le soleil s'évanouissait derrière un nuage, ils entendirent les terribles hurlements des orques et ils les virent qui surgissaient de la forêt et dévalaient la pente, poussant leurs cris de guerre. Dans la lumière crépusculaire, leur nombre ne se pouvait que deviner, mais à l'évidence les Dunedain étaient en minorité, et même à 1/10. Isildur ordonna que l'on formât une Thangail, un mur de boucliers sur 2 rangs serrés qui, s'il était pris de flanc, pouvait s'incurver aux 2 bouts jusqu'à devenir un anneau fermé. Si le terrain avait été plat, ou si la pente avait été en sa faveur, il aurait fait former une Dirnaith, et il aurait chargé les orques, certains que la grande force des Dunedain, ainsi que leurs armes, leur permettraient de se tailler un chemin dans la masse de leurs ennemis et de les disperser dans la panique. Mais en l'occurrence, cela ne se pouvait faire. Et l'ombre d'un pressentiment tomba sur son cœur. « La vengeance de Sauron perdure, même si Sauron est mort, » dit-il à Elendur, qui se tenait à ses côtés. « Il y a de la ruse et de la fourberie dans cet assaut. Nous n'avons nul espoir d'être secourus. La Moria et la Lorienne sont à présent loin derrière nous, et Thranduil est à 4 jours de marche devant. « Et nous sommes porteurs de fardeaux dont la valeur est sans prix, » dit Elendur, car il était dans la confidence de son père. Les orques gagnaient du terrain. Isildur se tourna vers son écuyer. « Othar, » dit-il, « je place ceci en ta garde. » Et il lui remit le lourd fourreau et les fragments de Narsil, l'épée d'Elendil. « Protège-les de la capture par tous les moyens possibles et à tout prix, même au prix d'être tenu pour un lâche qui m'a abandonné. Prends avec toi ton compagnon et file. Va, je te l'ordonne. »
Othar mit un genou en terre et lui baisa la main, et les deux jeunes gens disparurent au pas de course dans l'obscurité du vallon. Si les yeux perçants des orques remarquèrent leur fuite, ces créatures n'y prêtèrent aucune attention. Ils firent une brève halte et se préparèrent à l'assaut. Et pour commencer, ils lâchèrent une volée de flèches, puis subitement, poussant une horrible clameur, ils firent ce qu'aurait fait Isildur. Ils envoyèrent leurs principaux guerriers le long de la dernière pente, comptant enfoncer le mur des boucliers. Mais ils tinrent ferme. Les flèches avaient été inefficaces contre les armures nouménoréennes. Les hommes dominaient de leur haute stature les plus grands des orques, et leurs épées et javelots portaient beaucoup plus loin que ceux de leurs ennemis. L'assaut faiblit, se brisa, et ils se retirèrent, laissant les défenseurs sans grand mal et inébranlés derrière des monceaux d'orques tués. Isildur crut que l'ennemi faisait retraite vers la forêt. Il regarda derrière lui. Au moment de disparaître derrière les montagnes, le cercle rougeoyant du soleil luisit dans l'entre-deux des nuages. Il ferait nuit bientôt. Isildur donna l'ordre de se remettre immédiatement en route, mais d'infléchir la marche vers le terrain plat, en contrebas, où les orques se trouveraient moins avantagés. Peut-être, pensait-il, qu'ayant chèrement payé une attaque qui avait été repoussée, il leur céderait le pas, non sans les faire suivre la nuit durant par leurs éclaireurs et faire surveiller leur camp. C'était bien à la manière des orques, qui le plus souvent se trouvaient décontenancés lorsque leur proie se retournait contre eux et mordait. Mais il était dans l'erreur. Il n'y avait pas seulement de la ruse dans l'attaque, mais également une haine féroce et acharnée. Les orques des montagnes avaient été endurcis sous le commandement des sinistres serviteurs de Barad-dûr, postés longtemps auparavant à la surveillance des cols, et bien qu'ils n'en eussent point claire conscience, l'anneau tranché de la noire main de Sauron 2 ans auparavant demeurait toujours chargé de sa sombre volonté et appelait tous les serviteurs de Sauron à son aide. Les Dunedain avaient fait à peine 1 mille lorsque les orques firent à nouveau mouvement. Cette fois-ci, ils ne chargèrent pas, mais rassemblant toutes leurs forces, ils se précipitèrent sur un seul rang, offrant un large front qui s'incurva peu à peu jusqu'à former un croissant, et bientôt un anneau se refermant sur les Dunedain. Ils étaient silencieux à présent, et demeuraient à distance respectueuse des redoutables arcs d'acier de Númenor, encore que l'ombre gagna rapidement et qu'Isildur ne disposa point d'archers en nombre suffisant pour la circonstance. Il fit halte. Il y eut une pause, bien que ceux des Dunedain qui avaient la vue perçante dirent que les orques s'avançaient furtivement vers l'intérieur, pas à pas. Elendur s'approcha de son père, qui se tenait à l'écart, sombre, comme perdu dans ses pensées.
« Atarinia, dit-il, « qu'en est-il de ce pouvoir qui réduirait à merci ces créatures infâmes et les contraindrait à t'obéir? N'est-il d'aucun secours ?»«
Hélas non, Senia. Je ne puis en faire usage. Je redoute la douleur d'y toucher, et je n'ai pas encore trouvé la force de le soumettre à mon vouloir. Il exige d'être manié par quelqu'un de plus grand que celui que je me sais être à présent. Mon orgueil est vaincu. Il devrait être remis entre les mains des gardiens des Trois. »
À cet instant, résonna une tempête de cors, et les orques resserrèrent l'étau de toutes parts, se ruant sur les Dunedain avec une dangereuse férocité.
La nuit était venue et tout espoir s'était évanoui. Les hommes tombaient, car les plus grands parmi les orques bondissaient dans les airs, deux à la fois, et morts ou vifs, s'abattaient de tout leur poids sur l'un des Dunedain afin de le livrer à d'autres puissantes griffes qui le traînaient hors de la mêlée pour l'achever. À ce jeu, les orques perdaient à 5-1, mais ce n'était pas cher payé. Kirion fut tué de cette manière et Aratan fut blessé à mort en tentant de le secourir. Elendur, encore indemne, chercha Isildur. Ce dernier ralliait ses hommes sur le flanc est, où l'assaut était particulièrement meurtrier, car les orques craignaient encore l'Elendilmir qu'il portait au front, et ils l'évitaient. Elendur le toucha à l'épaule, et il se retourna sauvagement, croyant qu'un orque s'était glissé derrière lui.
« Mon roi, » dit Elendur, « Kirion est mort, et Aratan est mourant. Ton ultime conseiller se doit de te porter conseil. Il se doit même de te donner ordre comme tu donnas ordre à Othar. Va, prends ton fardeau et à tout prix, remets-le entre les mains des gardiens, au prix même d'abandonner tes hommes et moi-même. »
« Fils de roi, » dit Isildur, « je savais qu'il me le fallait faire, mais je craignais cette douleur, ni ne pouvais-je partir sans avoir reçu de toi congé. Pardonne-moi et pardonne à mon orgueil qui t'a conduit à ce terrible sort. »
Elendur l'embrassa.
« Va, va maintenant, » dit-il.
Isildur prit vers l'ouest et, retirant l'anneau de l'étui fixé à son cou par une chaînette, il le passa à son doigt dans un hurlement de douleur, et depuis lors, jamais plus ne fut vu en terre du milieu. Mais l'éclat de l'Elendilmir de l'ouest ne se pouvait éteindre, et soudain, voici que sa lumière fulgura, flamme rouge et furieuse, comme une étoile incandescente. Hommes et orques s'écartèrent d'effroi. Et ramenant son capuchon sur sa tête, Isildur disparut dans la nuit. De ce qu'il advint des Dunedain, cela seulement devait-on apprendre. Sous peu, ils gisaient tous morts, sauf un jeune écuyer qui n'avait été qu'étourdi et se trouvait enterré sous l'amoncellement des corps. Ainsi périt Elendur, lequel aurait dû être roi par la suite, et comme le prédisaient tous ceux qui le connaissaient, un grand roi par sa force et sa sagesse, et sa majesté sans superbe, l'un des plus grands, et d'Elendil, le plus beau des fruits, et celui qui lui était le plus semblable. Or, d'Isildur, on raconte qu'il souffrit une douleur aiguë et que l'angoisse lui tenailla le cœur, mais qu'au début il courut comme un cerf qui fuit la meute des chiens jusqu'à ce qu'il atteignît le fond du vallon. Et là, reprit son souffle, pour s'assurer qu'il n'était pas poursuivi. Car les orques pouvaient traquer un fugitif dans les ténèbres grâce à leur flair, et ils n'avaient nul besoin de voir clair. Alors il continua toujours plus prudemment, car se déployaient dans les ténèbres devant lui de vastes étendues rocailleuses, sans chemin ni sentier, pleines d'embûches pour le pied de l'errant. Et ainsi marchant, il atteignit enfin les rives de l'Anduin, au plus fort de la nuit, et il était exténué, car il avait parcouru dans l'obscurité un chemin que les Dunedain n'auraient pu couvrir aussi vite de jour et sans faire halte aucune. À ses pieds, le fleuve tourbillonnait rapide et sombre. Il se tint là, un temps, seul, et le désespoir au cœur. Puis soudain et promptement, il se dépouilla de son armure et rejeta ses armes, sauf une courte épée à sa ceinture, et il plongea dans l'eau. C'était un homme fort et endurant, au point qu'il y en avait peu de son âge parmi les Dunedain pour lui tenir tête, et cependant il n'avait guère espoir d'atteindre l'autre rive. Avant d'avoir poussé bien loin, il fut en effet contraint d'obliquer vers le nord, nageant à contre-courant. Et malgré tous ses efforts, il se voyait toujours entraîné vers les rapides des champs de flambes, et ils étaient plus près qu'il n'avait cru. Et alors qu'il sentait enfin le courant s'alanguir, et qu'il approchait de l'autre rive, il dut se débattre à travers les rapides dans un fouillis de roseaux grimpants. Et soudain, il sut que l'anneau n'était plus là. Par hasard, ou par un hasard à point voulu, il s'était détaché de sa main et avait disparu là où jamais plus il ne pouvait espérer le retrouver. Un instant, il ressentit si fort le sentiment de cette perte qu'il cessa de lutter et se serait laissé couler bas. Mais ce sentiment se dissipa aussi promptement qu'il était venu. La douleur l'avait quitté, il était déchargé d'un grand fardeau. Ses pieds trouvèrent le lit de la rivière, et s'arrachant à la vase, il pataugea parmi les roseaux jusqu'à un îlot marécageux proche de la rive ouest. Là, il se dressa hors de l'eau, rien qu'un homme mortel, une infime créature perdue et abandonnée dans les solitudes de la terre du milieu. Mais les orques jouissent d'une vision nocturne, et il surgit à la vue de ceux qui rôdaient aux aguets dans les parages une terrible ombre chargée d'épouvante dont le regard brillait comme une étoile. Et ils décochèrent dans sa direction leurs flèches empoisonnées et prirent la fuite. Et sans cause, car Isildur était désarmé, et il eut le cœur et la gorge transpercés de part en part, et sans un cri, il retomba en arrière dans les flots. Et jamais trace de son corps ne fut retrouvée, ni par les elfes, ni par les hommes. Ainsi passa la première victime de la malveillance de l'anneau, désormais sans maître. Isildur, second roi de tous les Dunedain, seigneur de l'Arnor et du Gondor, qui devait être le dernier en cet âge du monde.